Eh bien, j'ai découvert un autre livre en français qui aborde cette question, c'est-à-dire un livre publié récemment. Je l'ai lu quand ce livre a apparu en 2006 en anglais par Paul Wells, qui enseigne à Aix-en-Provence. Le titre en anglais, c'était « Cross Words », mais c'est maintenant publié en français. Le titre, c'est « De la croix à l'évangile de la croix, la dynamique biblique de la réconciliation ». C'est un petit livre, mais pour donner une esquisse de ce que le Seigneur a accompli sur la croix, de bonnes définitions de terme après terme après terme, ça vaut la peine de l'acheter. Encore, ce n'est pas un livre vraiment difficile ni trop long, mais c'est bien écrit et c'est orthodoxe et révérend. Et du point de vue d'exégèse, a beaucoup de raisons. De la croix à l'évangile de la croix, la dynamique biblique de la réconciliation, publié par Excelsis, 2007 en français, 294 pages. Voilà. Eh bien, avant midi, nous avons commencé notre étude sur chapitre 3 de Romains à partir de verset 27 jusqu'à la fin de chapitre 4. Nous avons noté l'emphase sur la foi et j'ai suggéré que la suite de la pensée dans verset 27 à verset 31 nous donne une esquisse de ce qui est traité en détail dans chapitre 4. Premièrement, la foi exclut cette habitude de se glorifier. Deuxièmement, la foi est nécessaire pour préserver la grâce. La foi est nécessaire pour préserver la grâce. Chapitre 3, verset 28. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Chapitre 4, verset 3 à verset 8. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Eh bien, la plupart des Juifs au temps de Jésus, quand ils lisaient Genèse chapitre 15, verset 6, ont compris la foi d'Abraham comme une œuvre. Donc, quand ils lisaient « Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice », ils se disaient l'un à l'autre « Voici la justice d'Abraham, voici une bonne œuvre en effet, c'est-à-dire quelque chose qu'Abraham a accompli ». Mais c'est exactement le contraire que l'apôtre Paul en tire du même passage. Il dit que ce n'est pas une œuvre, une œuvre. Donc, nous arrivons à cette question, qu'est-ce que c'est une œuvre? Est-ce qu'il y a de la mérite dans la foi? Je pense qu'il y a une autre question que l'apôtre Paul aborde ici. Nous voulons toujours, quand nous lisons la Bible, il me semble, nous voulons toujours l'interpréter d'une façon individuelle, c'est-à-dire avec l'application aux individus, sans jongler sur la question de train de l'histoire du salut. Par exemple, dans Galates chapitre 3, l'apôtre Paul dit qu'Abraham a cru en Dieu, même passage cité ici, et il a reçu la promesse, et ces événements ont eu lieu avant la loi. Donc, quand la loi est arrivée, la loi ne pouvait pas annuler la promesse. Maintenant, ça, ce n'est pas une question de comment la loi touche l'individu, ni comment la foi touche l'individu. C'est une question de la fin de l'histoire, vous voyez. Si nous nous approchions d'un juif conservateur du Palestine dans le premier siècle, on lui posait la question. Comment plaire à Dieu? Comment répondrait-il? Sans doute, il répondrait en obéissant à la loi. Comment est-ce qu'Ésaïe a plu à Dieu? En obéissant à la loi. Comment est-ce que David a plu à Dieu? En obéissant à la loi. Comment est-ce que Moïse a plu à Dieu? En obéissant à la loi. Comment est-ce qu'Abraham a plu à Dieu? En obéissant à la loi. En obéissant à la loi, quelle loi? Abraham était avant la loi. Et les Juifs répondraient. Eh bien, même Genèse nous enseigne que qu'Abraham a préservé tous les statuts de l'Éternel. Sans doute, donc, il a reçu une révélation spéciale et individuelle afin qu'il puisse plaire à Dieu en accomplissant la loi. Et là, comment est-ce qu'il a plu à Dieu? A plu à Dieu? En obéissant à la loi. Comment? Mais la Bible nous dit qu'il a marché avec Dieu. Nous savons comment on marche avec Dieu. Il faut obéir à la loi. Donc, sans doute, il a reçu une révélation spéciale, individuelle, afin qu'il puisse véritablement plaire à Dieu. Mais notez bien ce qui prend place avec cette espèce d'interprétation. La loi est élevée au centre de l'argument herméneutique. La loi devient le principe herméneutique pour lire le reste de l'Ancien Testament. Ce qui n'est pas préservé, c'est la suite de l'histoire, le trame de la révélation du salut. Ce qu'on perd, c'est l'histoire. Ça devient une espèce de théologie systématique, atemporelle, mais nous perdons l'histoire. Et c'est exactement à ce point que Paul insiste, ce n'est pas comme ça qu'il faut lire l'Ancien Testament. Il y a des livres et des livres et des livres qui examinent comment les écrivains du Nouveau Testament comprennent l'Ancien Testament. Et un grand pourcentage de ces livres insistent que les chrétiens qui ont écrit le Nouveau Testament utilisent les mêmes principes d'exégèse, les mêmes principes d'herméneutique qu'ont utilisé les Juifs de leur temps. Ma question, c'est celle-ci. Si les mêmes principes d'exégèse et d'herméneutique ont été utilisés, pourquoi sont-ils sortis avec une interprétation assez différente? Il y a trois ou quatre raisons. Je ne peux pas aborder cette question en détail. Mais une des réponses qu'il faut souligner, il faut insister absolument sur ce point. Les écrivains du Nouveau Testament, s'y inclut Paul, et nous allons voir plus tard l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et d'autres dans le Nouveau Testament, ont insisté qu'il faut lire l'histoire de l'Ancien Testament dans la séquence de l'histoire. C'est-à-dire avec avant et après, ce qui suit quoi. Et si nous faisons cela, nous voyons dans Galates chapitre 3 que ce que Paul dit en effet, c'est que la promesse a été donnée avant la loi, et donc quand la loi avait été ajoutée, ça ne pouvait pas annuler la promesse. La promesse était encore là. La promesse que dans Abraham et dans sa semence, toutes les nations du monde seraient bénies. Et c'était là déjà devant la loi, devant la circoncision, devant Moïse, avant Moïse, n'est-ce pas? De même dans Romains chapitre 4, comme nous allons voir ici dans un instant, il y a une discussion. Quel détail a pris précédence, la circoncision ou la foi? Si c'était la circoncision, donc ça prend la circoncision avant la foi. Mais si Abraham a cru et ensuite la circoncision a été ajoutée, on ne peut pas dire que la circoncision est nécessaire pour plaire à Dieu par la foi. Vous voyez, c'est un argument de séquence, d'histoire. C'est notre façon de lire la Bible. Ça préserve le sens d'histoire qu'on trouve dans la Sainte Parole. Vous voyez? Ça, c'est une différence herméneutique entre les interprètes chrétiens et les interprètes juifs. Entre Paul avant sa conversion et Paul après sa conversion, il a vu qu'il faut lire l'Ancien Testament, pas comme si c'était une théologie atemporelle, mais c'est une histoire. De même façon ici, quand l'apôtre Paul dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice, or à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Derrière son texte est cette compréhension que nous voyons déjà chez Galates, que la promesse, la foi, tout cela est arrivé avant que la loi soit donnée, même. Et donc la loi qui exige des choses, qui exige une certaine obéissance, qui exige des œuvres, n'était pas là quand Abraham a cru à Dieu. Il y a un autre présupposé ici. Notez bien. Verset 5. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie. Donc cela présuppose dans le contexte que Paul voyait Abraham comme un homme impie. Ça, c'est une autre grande différence. Les Juifs voyaient Abraham tout simplement comme un héros de la foi, comme un héros qui était leur précurseur, qui était le fondateur de leur ethnicité, après tout. C'était le premier, pour utiliser notre expression, le premier juif, le premier hébreu. Mais pas Paul. Il le voit comme un homme impie. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un système de mérite ou d'œuvre, et comme on trouvait assez souvent chez les rabbins, que les grands pères, les patriarches, avaient des mérites et des démérites, mais s'ils pouvaient avoir assez de mérites, ça compterait pour leur semence plus tard. Déjà, dans un document qu'on appelle 4 Esdras, nous trouvons ce système de mérite vers le temps de l'apôtre Paul. À part de cela, Paul dit, non, c'était après tout un homme impie. Il remarque, il peut lire, par exemple, qu'il était menteur, notre cher père Abraham. Et il était en succession aussi d'Adam, après tout. Apparemment, il a commencé sa vie comme un païen à Ur des Chaldées. C'était un homme impie. Comment donc est-ce qu'il a plu à Dieu? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Donc, pour préserver la grâce, la priorité de grâce, selon Paul, il est nécessaire que le salut soit par le moyen de la foi. Et ensuite, l'apôtre Paul ajoute David, pour donner un autre exemple, psaume 32, verset 1 et verset 2. Troisièmement, la foi est nécessaire si les Juifs et les païens, tous les deux, deviennent chrétiens. S'ils peuvent tous les deux être sauvés, la foi est nécessaire. Chapitre 3, verset 29 et 30. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. C'est-à-dire, une des implications du monothéisme, c'est la mission universelle. S'il n'y a qu'un seul Dieu, nécessairement il est le Dieu de tout le monde, reconnu bon ou non. Donc une des implications du monothéisme, c'est le fait qu'il est le Dieu de tout le monde, reconnu ou non. Mais parmi les Juifs, sous l'Alliance, ça faisait partie de leur alliance qu'ils obéissent à la loi. Mais ici, nous lisons, s'il y a du salut pour les Juifs et les païens, tous les deux, si Dieu est véritablement le Dieu des païens, comme il est le Dieu aussi des Juifs, donc, parce qu'il n'y a pas d'alliance ancienne pour les païens, comment seront-ils sauvés? Mais par le même moyen que les Juifs seront en fin de compte sauvés, par le moyen de la foi. Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. Carrément. Chapitre 4, verset 9 à verset 17, mais cette section est divisée en deux. Premièrement, verset 9 à verset 12. L'évidence de ce point dans l'expérience d'Abraham. Et verset 13 à verset 17, l'évidence de ce point dans l'histoire du salut. Donc, commençons avec verset 9. Ce bonheur, c'est-à-dire le bonheur de l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché, encore une fois, nous voyons ce que nous avons remarqué ce matin. C'est une question d'être réconcilié à Dieu. C'est une question de s'adresser à la question de péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Exactement la même question que l'apôtre Paul à laquelle l'apôtre Paul s'adresse dans chapitre 3, verset 28 et verset 29. Car nous disons, pour Abraham, la foi fut comptée comme justice. Comment donc était-il lorsqu'elle lui fut comptée? Était-il circoncis ou non? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Quand il était incirconcis, il est ainsi le père de ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Et il est aussi le père des circoncis qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sous les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Notez bien. Ça, c'est l'évidence du point établi, ce troisième point, dans l'expérience d'Abraham. Maintenant, versets 13 à 17, l'évidence du même point à travers l'histoire du salut, à travers le trame de l'histoire biblique. Verset 13. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Parce que, après tout, la loi n'avait pas été encore donnée. Ça, c'est exactement l'argument de Galates chapitre 3, vous voyez. C'est une histoire du salut. C'est une question de l'histoire du salut. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère Et là où il n'y a pas de voix, il n'y a pas non plus de transgression.
Il y a encore l'idolâtrie, il y a encore le péché, mais il n'y a pas de transgression, c'est-à-dire la transgression d'un point légal, la transgression d'une prohibition, la transgression de commande de Dieu. Il y a encore l'idolâtrie, il y a encore le péché, mais pas encore la transgression. Donc, c'est par la loi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Eh bien, à ce point, il faut faire un autre petit excursus. Qu'est-ce que nous comprenons par une expression comme la descendance d'Abraham ou le fils d'Abraham? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous aujourd'hui, si nous voulons discerner la paternité de quelqu'un, c'est une question en fin de compte biologique, n'est-ce pas? Mais dans l'ancien monde, la paternité, qui est le père, c'est une question beaucoup plus large que biologique. Permettez-moi de vous poser une question. Je l'ai fait à maintes reprises dans plusieurs assemblées. Une autre expérience ici. Combien de vous en, combien de vous en, vous faites, du point de vue de vocation, ce qu'ont fait vos pères? J'en vois une main, peut-être deux. Combien de vous femmes, vous faites, du point de vue de vocation, ce qu'ont fait vos mères? Deux mains. Vous voyez? Trois mains, peut-être. C'est remarquable, n'est-ce pas? Mais avant la révolution industrielle, si ton père était boulanger, toi, tu deviens boulanger? Si ton père est cultivateur, toi, je parle maintenant aux hommes, toi tu deviens cultivateur. Si ton père t'appelle Stradivarius, toi tu crées des violons, vous voyez? Parce que ça faisait partie de ton héritage, ça faisait partie de la famille, ça faisait partie même de ton identité. Donc parmi les Juifs, il y avait dans le temps de Jésus, des écoles, du synagogue, où il fallait apprendre, surtout pour les garçons, de temps en temps pour les filles, comment lire. Mais ce n'était pas toute une formation. Il n'y avait pas d'université. Il n'y avait pas des écoles d'industrie pour nous donner des... pour nous enseigner comment devenir cultivateur. On apprenait ces choses de son père, après tout. Et donc, notre identité était formée, notre formation a eu lieu dans la famille. Et c'est le père, en effet, qui donne la définition. Il est boulanger, je deviens boulanger. C'est si simple que cela. Ça, c'est mon identité. Et j'apprends comment être cultivateur, comment construire un violon. On apprend tout cela du père, après tout. Et à cause de cette circonstance culturelle, nous trouvons dans la Bible un grand nombre d'expressions métaphoriques qui sont basées sur ce point. Par exemple, les fils de perdition ou les fils de Dieu. Ça dépend du contexte. Jésus dit: bénis soient ceux qui font la paix, qui sont paysans, qui font la paix, ils seront appelés, qui procurent la paix, et ils seront appelés quoi? Les fils de Dieu. C'est parce que c'est Dieu surtout qui procure la paix, et donc ceux qui agissent d'une telle façon, ils sont, par leur conduite, les fils de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont comme Dieu à chaque égard, mais parce que c'est Dieu, enfin, qui est la personne qui conduit la paix qui procure la paix au centre de l'univers, pour ainsi dire. Ceux qui procurent la paix agissent comme lui, et à cet égard, ils sont les fils de Dieu. Et, de l'autre côté, dans Jean chapitre 8, quand le Seigneur Jésus est en dispute avec les Juifs, et ils se disent les fils d'Abraham, Jésus répond, fils d'Abraham, Abraham s'est réjoui, voir mon jour, mais vous ne me connaissez pas, comment est-ce que c'est possible que vous soyez les fils d'Abraham, ce n'est pas possible. Donc ils ont répondu, nous sommes en vérité les fils de Dieu. Ce n'est pas possible, Jésus, parce que après tout, je connais Dieu. Et Dieu me connaît. Si vous ne me connaissez pas, ça signale que vous n'êtes pas les fils de Dieu. J'aimerais vous dire qui est votre père. Et c'est le diable lui-même, après tout. Parce qu'il est un meurtrier dès le commencement, vous essayez de me tuer. Il est un menteur dès le commencement, et vous ne dites pas la vérité en ce qui me concerne. Vous êtes les fils, en effet, du diable. Mais maintenant, ce n'est pas que Jésus est tellement ignorant de la biologie qu'il a nié en effet qu'ils étaient des Juifs. Il savait aussi bien que nous que les Juifs étaient en réalité les fils d'Abraham. Mais du point de vue de conduite, ils ne l'étaient pas. Et la conduite prend précédence sur la biologie. Qui donc sont les vrais fils d'Abraham? Ce sont pas ceux qui partagent la foi d'Abraham. Vous voyez? Parce que c'est une question de conduite. Et ce que l'apôtre Paul enseigne, c'est que même avant le don de la loi, Dieu a justifié Abraham par la grâce, par le moyen de la foi. C'était déjà établi. C'est Dieu qui l'a choisi. Après tout, ce n'était pas Abraham à la ville d'Ur des Chaldées qui a dit un jour, « Eh bien, s'il y a un seul Dieu, franchement, j'ai un bon conseil à te donner. Je pense que ça prend notre race. On va les appeler des Juifs. Et moi, je serai le grand-père. Je vais promettre de t'obéir. Toi, tu vas me donner un pays quelque part. Et ensuite, nous construirons ensemble tout un peuple de l'Alliance, disons. Ça ne fonctionne pas comme cela. C'est Dieu qui l'a choisi par la grâce. C'est Dieu qui lui a donné ses promesses. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru à la promesse de Dieu. Et Dieu l'a justifié. Par le moyen de la foi. Malgré le fait qu'il était un homme impie. Ça, c'est le point. Donc, qui sont les véritables fils d'Abraham? Ceux qui ont la même foi qu'Abraham. Ça, c'est le point de l'apôtre Paul ici, et encore dans Galates chapitre 3. Ce n'est pas tout simplement une question biologique. C'est une question de conduite, de performance. Et ensuite, si on soulève une plus grande vision, il faut se rappeler du fait que Dieu, dans sa promesse, a déjà promis à Abraham, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Verset 17. « Il est notre père à tous devant Dieu. » Vous voyez? C'est déjà établi dans Genèse chapitre 15. Donc, espérant contre toute espérance, il crut et devint aussi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Donc, la foi est nécessaire si juifs et païens, tous les deux, soient sauvés. Quatrièmement, la foi chrétienne, donc, n'annule pas l'Alliance, n'annule pas l'Ancien Testament, mais accomplit et soutient l'anticipation que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Je répète, la foi chrétienne, donc, n'abolit pas l'Ancien Testament, mais accomplit et donc soutient l'anticipation que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Chapitre 3, encore une fois, verset 31. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes, non. Au contraire, nous confirmons la loi. Mais dans quel sens est-ce que nous confirmons la loi? Est-ce que nous confirmons la loi seulement dans le sens où il faut encore offrir les mêmes sacrifices, faire les mêmes distinctions entre nourriture et nourriture, avoir un grand prêtre lévitique? Il faut avoir un tabernacle ou un temple à Jérusalem. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Confirmer la loi. Ce n'est pas possible de croire cela. Déjà chez Marc chapitre 7, nous disons que Jésus a déclaré toute nourriture purifiée, n'est-ce pas? Déjà pure. Ce changement de la loi, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire qu'il a annulé la loi? Qu'il a aboli la loi? Ce n'est pas le terme que Jésus lui-même utilise. Comme dans Matthieu chapitre 5, verset 17 et suivant, il insiste qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Maintenant, nous sommes déjà accoutumés à cette idée, n'est-ce pas? En ce qui concerne, par exemple, le sacrifice des brebis à la Pâque. Nous sommes déjà prêts à comprendre que ce système de sacrifice visait sur la Pâque idéale, où Jésus devient notre sacrifice du Pâque, n'est-ce pas? Comme nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6. Et dans Jean chapitre 2, Jésus devient notre temple. Dans Hébreux chapitre 7, comme nous allons voir tout à l'heure, il devient notre prêtre. Dans ce sens, les écrivains du Nouveau Testament insistent que la loi annonçait d'avance ce qui devait arriver. C'est-à-dire, nous confirmons la loi maintenant, pas en préservant les détails des stipulations de la loi, toutes les prohibitions, tous les commandements de Dieu, mais précisément dans l'accomplissement de tout ce que la loi avait déjà annoncé par ses prohibitions, par ses commandements et ainsi de suite. Et ici, pareillement, l'apôtre Paul dit, verset 21, « Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. » Et il dit à la fin, verset 31, « Donc, est-ce que ça signale que nous annulons ainsi la loi, par la foi? » Certes, non! Comment? Mais déjà, dans verset 21, il écrit que la justice de Dieu est attestée dans la loi et les prophètes. De même façon, à la fin de ce chapitre, il insiste, « Donc, nous confirmons la loi. » C'est-à-dire la direction de la loi, ce que la loi enseigne à travers l'histoire du salut, ce que la loi annonce d'avance par sa structure et par sa promesse. Et donc, la foi chrétienne n'annule pas l'Ancien Testament, n'annule pas la loi, ne l'abolit pas, mais accomplit, soutient la loi. Et, pareillement, verset 31 de chapitre 3, mais aussi chapitre 4, verset 18 à verset 25. Et encore une fois, il y a deux sections. Verset 18 à verset 22. Verset 18 à verset 22. Le test de foi que Dieu a donné à Abraham. Et ensuite, l'exemple de la foi d'Abraham, verset 23 à verset 25. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit
telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Eh bien, ceux qui connaissent l'histoire de l'Ancien Testament savent qu'il y avait des occasions quand Abraham a douté. Mais probablement ici, l'apôtre Paul vise sur l'Akeda qu'on appelle en hébreu, c'est-à-dire Genèse chapitre 22, où il était tellement obéissant à l'exigence de l'Éternel qu'il offre en sacrifice son fils Isaac, qu'en fin de compte, il croyait quand même que Dieu pouvait accomplir sa promesse quand même. Même il a dit à son serviteur, « Nous, c'est-à-dire le fils et moi, nous irons à la montagne et nous reviendrons. » Cela signale déjà qu'il avait confiance, par une manière ou l'autre, que Dieu protégerait son fils. Il avait dans cette circonstance la foi. Voilà donc le test de la foi. La foi! Et ensuite, nous lisons verset 23, « Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il a écrit cela, lui fut compté, c'est aussi à cause de nous. À qui cela sera compté? Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Donc, il y a un argument entre chapitre 3, verset 21, jusqu'à la fin de chapitre 4. L'argument est basé sur la substitution pénale de Jésus-Christ pour maintenir la justice de Dieu, afin que Dieu soit juste et celui qui justifie les impies. Et cette offrande, ce sacrifice, nous le recevons, ça nous sauve par le moyen seul de la foi. Il me semble que l'apôtre Paul n'aurait pas pu le mettre d'une façon plus claire si nous savons l'ancienne histoire, comment dire, il lit l'Ancien Testament dans sa séquence historique. Voilà, donc, Romains chapitre 3 et Romains chapitre 4. Maintenant, nous allons à l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux. Surtout chapitre 9. Eh bien, je vais vous poser une question. Combien parmi vous étaient ici il y a 4 ans quand j'ai donné un séminaire? Peut-être une dizaine, quinzaine. Donc, si vous voulez prendre un petit sommeil pour quelques instants, c'est le temps. Parce que il y a une petite portion de ce que j'ai enseigné il y a 4 ans, et je suis convaincu que chaque personne qui a pris ce séminaire a tout appris et peut répéter exactement ce que j'ai enseigné. Donc vous pouvez vous dormir un petit peu, mais je veux souligner un petit argument de ce séminaire parce que c'est nécessaire pour ce que je vais faire maintenant dans le chapitre 9. Ce que nous avons examiné il y a 4 ans, c'est comment les auteurs du Nouveau Testament, surtout l'auteur de l'Épître aux Hébreux, a utilisé l'Ancien Testament. C'est une grande question intéressante et difficile, mais si
on achève à comprendre ce que fait cet auteur, nous apprenons aussi comment lire l'Ancien Testament d'une façon fidèle et biblique et qui fait du bon sens. On a passé tout notre temps sur cette question il y a vraiment. Maintenant, je veux pas essayer de tout répéter, mais à plusieurs reprises chez l'Épître aux Hébreux, nous trouvons la même argumentation que nous venons de voir chez Paul, c'est-à-dire la différence entre son interprétation et l'interprétation des Juifs dans son temps. Il y avait plusieurs différences, mais surtout la différence qui nous intéresse ici, c'est que il voyait la séquence de l'Ancien Testament. Il lisait l'histoire de l'Ancien Testament. Il voyait toujours ce qui était avant et ce qui était plus tard. Puis il en tirait des indications de tout cela. Donc, dans Hébreux chapitre 3, verset 7, à chapitre 4, verset 13, il y a un argument basé sur la lecture de Psaume 95, si vous suivez le texte. Hébreux chapitre 3, à partir de verset 7. Nous n'allons pas examiner tout le texte, ce n'est qu'un survol. Verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tendèrent pour m'éprouver et dire mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération et je dis, leur cœur s'égare toujours et ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Eh bien, dans verset 12 à verset 19, il y a une application de ce psaume, une application morale. C'est-à-dire, de même façon que les Juifs qui se trouvaient dans le désert sont tombés en rébellion et donc ils n'ont pas été permis à entrer dans le pays promis. De même façon, nous aussi aujourd'hui, nous qui avons goûté le pardon, qui avons goûté la bénédiction de Dieu, il faut que nous aussi, que nous soyons fidèles, persévérants jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est encore la voix de l'Éternel qui nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs parce que vous aussi, vous pouvez tomber dans le désert, pour ainsi dire. Donc, le point, on le trouve dans chapitre 3, verset 14. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance primaire. Notre assurance première. C'est-à-dire, il faut continuer, il faut préserver, il faut persévérer. Autrement, nous n'entrons pas dans le reste de Dieu. Et c'est tout simplement une application à ces lecteurs que l'auteur prend de Psaume 95. Claire? Mais dans chapitre 4, l'argument devient un peu plus compliqué. À ce point, il dit en effet, oui, c'est vrai que dans le temps de la révolte, toute cette génération a péri dans le désert. Mais en fin de compte, Josué a conduit le reste, la prochaine génération, dans le pays promis. C'est le repos promis par Dieu. Donc, cette génération, la deuxième génération, est entrée dans le repos promis par Dieu lui-même. Mais ici, des siècles après l'entrée dans ce repos, Dieu, dans le temps de David, dans Psaume 95, dit de nouveau, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, C'est pourquoi je fus indigne contre cette génération. Et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entrent certainement pas dans mon repos. Et l'auteur en tire la conclusion. Cela signale donc que d'entrer dans le pays promis n'était pas le repos final. Parce que Psaume 95 était écrit pour ceux qui étaient déjà entrés dans le pays promis. Ils ont déjà réussi à achever, à atteindre ce repos. Mais si Dieu dit encore, des siècles plus tard, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, ça signale que le pays n'est pas le repos final. Encore, il y a une responsabilité d'entrer dans mon repos, Dieu dit. Puis l'auteur pense encore davantage. Mon repos. Dieu parle de mon repos. Où est-ce que Dieu parle de mon repos dans la Bible? Et il se souvient de Genèse chapitre 2. Il a cessé de ses travaux dans la création. Il s'est reposé. Donc, quand Dieu s'est reposé, il a cessé de ses œuvres. Si nous voulons entrer dans son repos, il faut aussi que nous aussi nous cessions de nos œuvres, de la même façon que Dieu. Et après tout, le repos de Dieu à la fin de la semaine de la création devient aussi la raison pour la loi du sabbat dans Exode chapitre 20. Et après cela, il y a mention du repos quand on entre dans le pays promis. Et ensuite, dans Psaume 95, il y a encore promesse de l'autre repos si vous n'endurcissez pas vos cœurs. Vous voyez, c'est une question de suite. Et de tout cela, l'auteur en tire la conclusion autant que c'est aujourd'hui pour nous. Il faut aussi que nous prenions garde, que nous examinions nos cœurs, que nous persévérions dans le salut que Dieu nous donne afin que nous atteignions la promesse que Dieu nous donne dans le salut pourvu par Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, en effet, c'est par le fait que Psaume 95 a été écrit quelques siècles après l'entrée à Canaan, que l'auteur ici en tire la conclusion qu'entrer au pays de Canaan n'était pas la promesse finale, n'était pas le repos final. Nous ne pourrions pas en tirer une telle conclusion sans voir la séquence entre la révolte, entrer à la terre promise et ensuite 195. Ça, c'est chapitre 4. Chapitre 7. À ce point, l'auteur examine Melchizedek. Melchizedek est mentionné seulement deux fois dans l'Ancien Testament. Genèse 14 et Psaume 110. Le Psaume 110 est le chapitre de l'Ancien Testament le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Maintenant, je n'ai pas le temps de tout repasser cet argument. C'est formidable. Mais encore une fois, Melchizedek est présenté comme un roi prêtre de Salem. Il est mentionné dans seulement trois versets de l'Ancien Testament. Et ça nous surprend. Chaque personne qui est importante du tout chez Genèse, elle a une généalogie, une longue liste de pères et de grands-pères et des enfants, des petits-enfants et ainsi de suite. Et tout d'un coup, dans trois versets, 14, verset 18 à verset 20, tout d'un coup, et ça interrompt l'histoire, on pourrait ôter ces trois versets et l'histoire ferait du bon sens. Et tout d'un coup, ça interrompt l'histoire et un homme qui est un prêtre roi à Salem, c'est-à-dire l'ancien Jérusalem, est plus grand qu'Abraham et bénit Abraham. Et Abraham lui paie la dîme. C'est-à-dire, il est plus grand que même Abraham, le fondateur des Juifs, de la famille juive. Et c'est tout ce qui est mentionné. Il était roi, il était prêtre. Et c'était pas bon, la loi. Après tout, selon la loi, un roi ne pouvait pas devenir prêtre. Un roi devait descendre du tribu de Judée. Un prêtre devait descendre du tribu de Lévi. Et Saül, quand il voulait être roi et prêtre, en effet, il a perdu son héritage, il n'a pas réussi à avoir une dynastie exactement parce qu'il a essayé de briser ses règlements. Mais en fin de compte, nous lisons dans 2 Samuel chapitre 6 que David était roi, autrefois à Hébron et maintenant à Jérusalem. Et le tabernacle a été transporté à Jérusalem, où David était roi, donc à la même place, Salem, Jérusalem. Il y a un prêtre, Lévitique, et un roi de Judée, David. Et dans la prochaine chapitre, 2 Samuel chapitre 7, Dieu donne à David la promesse d'une dynastie perpétuelle, une dynastie éternel. Exactement ce que Dieu n'a pas donné à Saül. Et il y a un grand nombre de promesses à travers l'Ancien Testament après 2 Samuel 7 qui sont basées sur cette promesse. Par exemple, Ésaïe chapitre 9 que nous citons chaque Noël. Dieu nous a donné un fils sur la voie, sur le trône de David, qui est à la fois le Dieu puissant. Mais mettez-vous à la place de David, si c'est possible. Tu es maintenant roi, du tribu de Judée. Avec cette promesse que Dieu vient de te donner dans 2 Samuel chapitre 7 et pour la première fois aussi le tabernacle dans la même ville que l'habitation du roi. Et tu lis fidèlement la Bible. Tu n'as pas toute la Bible, mais tu as au moins Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et quelques autres livres. Et c'est la parole de Dieu. Ce sont les écritures de l'Ancienne Alliance. De l'Alliance, à ce point, il n'y a pas une ancienne Alliance. C'était l'Alliance. Et toi, tu lis Genèse chapitre 14, où tu rencontres Melchizedek, qui était comme toi, roi. Roi de Salem. Mais pas comme toi, frère. Tu peux presque imaginer ce qui est passé par la tête de David, n'est-ce pas? Je ne comprends pas tout cela. Mais si Dieu a déjà, une fois, pourvu un prêtre roi, pour Jérusalem, qui était plus grand qu'Abraham. Pourquoi pas aussi en tirer la conclusion qu'un jour, il y aura un autre roi. Ça ne peut pas être un prêtre lévitique, parce que les lévitiques n'avaient pas le droit de devenir roi. Ça ne peut pas être tout simplement quelqu'un ordinaire de mon issue, parce que moi et ma descendance, nous n'avons pas le droit de devenir prêtre. Et guidé par l'Esprit Saint, il écrit psaume 110, adressé au roi, mais Dieu, par un serment, annonce aussi que ce roi, il dit, tu seras prêtre selon l'ordre de Lévitique, mais de Melchizedek. Eh bien, après avoir annoncé cela, et expliquer cela, que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, et nous omettons les prochains mots pour l'instant, quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchizedek, et non pas selon l'ordre d'Aaron? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Eh bien, reculons un petit peu. Notez bien maintenant les mots que j'ai omis. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple. Notez bien, la loi repose sur le sacerdoce. Maintenant, ce n'est pas comme ça que nous pensons aujourd'hui. Nous avons reçu un héritage de Calvin, qu'il a reçu de Thomas d'Aquin, que la loi, il faut la diviser en quoi? Loi morale, loi cérémoniale, loi civile. Et la loi civile, ça touche la nation d'Israël, mais le peuple de Dieu n'est plus une nation aujourd'hui, donc on n'a plus besoin de la loi civile. La loi cérémoniale, ça touche la question des sacrifices, et maintenant, Christ est notre sacrificateur, il est notre sacrifice, donc nous n'avons pas besoin de la loi cérémoniale. Tout ce qui nous reste, c'est la loi morale. N'est-ce pas vrai que nous avons tous reçu cette traduction? Et d'un certain point de vue, c'est juste. Il y a un sens où il y a une loi morale qui continue. Mais jamais dans le Nouveau Testament, nous lisons que la loi morale est la chose la plus centrale et c'est la prédisposition à la loi morale que nous essayons d'établir ce qui continue entre les Testaments et autrement abolir tout le reste. Ce n'est pas comme ça que le Nouveau Testament parle. Le Nouveau Testament parle plutôt de l'accomplissement de la loi et ne nous introduit pas à cette division en toi, morale, civile, cérémoniale. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux enseigne que toute la loi est fondée sur le sacerdoce. Que nous dirions est la loi cérémoniale. Mais est-ce que c'est tellement difficile à comprendre? Après tout, vous lisez chapitre 20 d'Exode, les 10 commandements. Et qu'est-ce que vous allez trouver dans chapitre 21, et 22, et 23, et 24, et 25, et 26, et 27, jusqu'à 40? Le système de sacerdoce. Comment construire un tabernacle, un autel, un éphod? Comment préparer les prêtres? Des chapitres, et des chapitres, et des chapitres, et ensuite, des Lévitiques. Encore un grand nombre de chapitres en ce qui concerne la loi soi-disant cérémoniale. C'est-à-dire, toute l'alliance de la loi, toute la loi, en fin de compte, est basée sur le sacerdoce. Et c'est le sacerdoce qui prend la première place parce que c'est le système de sacerdoce qui réconcilie les hommes à Dieu. Sans le système de sacrifice, sans le système ordonné par Dieu, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu, pas du tout. Donc toute la loi est basée sur le sacerdoce. Et maintenant, David a dit, quelques siècles après l'ancienne alliance et le système lévitique, et il annonce un prêtre selon l'ordre de Melchizedek. S'il y a un prêtre selon l'ordre de Melchizedek, ça signale déjà que le prêtre lévitique ne va pas durer. Et si on change le prêtre lévitique, on change l'alliance. On change la loi. C'est tout changé. Il n'y a pas manière de l'échapper. Donc ça signale qu'au temps de David, 1000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà dans les Écritures de ce qu'on appelle l'Ancien Testament une annonce pour dire en effet que l'ancienne alliance n'était pas permanente.
disant, si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y avait-il encore que l'autre sacrificateur, selon son 110, paraisse selon l'ordre de Melchizedek, et non pas selon l'ordre d'Aaron? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui à qui s'appliquent ces paroles s'appartient à une autre tribu dont personne n'a été attaché au service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est d'origine de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs et ainsi de suite. Notez bien, tout l'argument, toute l'argumentation se dépend de la distance en histoire entre Moïse et David. Il faut lire en bonne séquence l'histoire. La loi de Moïse a établi le sacrificateur lévitique. Mais car David, quelques centaines d'années plus tard, annonce l'arrivée de l'autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, ça veut dire en effet que l'ancien sacrificateur lévitique est déjà en principe obsolète. Obsolète. Vous voyez, c'était déjà annoncé 1000 ans avant Jésus-Christ dans le temps de David. Eh bien, c'est temps pour la pause. J'ai encore une autre étape à prendre dans Hébreux et ensuite nous allons examiner le sacrifice de Christ dans l'Épître aux Hébreux. Une pause.